Alternativa 2017. L'équipe d'Ondes Courtes est allée capter les conférences lors de l'édition Alternativa 2017.
Bonjour à tous. Merci d'être venus écouter cette petite conférence. Donc je remercie d'abord l'équipe d'Alternativa. Merci beaucoup pour ce super village que vous avez monté cette année. Donc on n'a pas tout le matériel au point, mais bon, ça fait rien, on va faire sans le PowerPoint. Merci à vous d'être présents aujourd'hui et d'être engagés à nos côtés pour la planète. Donc si vous êtes ici, vous avez déjà entendu parler de la permaculture, j'imagine. Donc je me présente, je suis Laurence Lostas. Donc je suis passionnée depuis toute petite par la nature. Et depuis 2011, par la permaculture. Donc, j'ai passé mon CCP cette année. Le CCP, c'est le cours certifié de permaculture. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un cours de 72 heures qui est gratifiant. Donc, c'est un diplôme de l'Université populaire de permaculture. Donc, je l'ai passé avec Steve Reed. Steve Reed, qui lui-même un élève de Bill Mollison, qui est allé en Australie. Donc, Bill Mollison, l'un des cofondateurs de la permaculture. Je suis aussi adhérente des jardiniers de Tournefeuille, que grâce à eux, je suis là aujourd'hui. C'est les jardins familiaux de la ville de Tournefeuille qui ont été créés en 2003. Et donc non seulement ils proposent des parcelles aux jardiniers, parce que là il y a des nouvelles parcelles qui s'ouvrent à la ramée, donc il y a 150 parcelles en tout. C'est aussi une association qui promeut l'éducation à l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on opère, on est intervenant au sein de cette association-là. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir promouvoir la permaculture. Donc selon Bill Mollison et David Holmgreen, parce que ce sont les deux cofondateurs de ce mouvement. Alors permaculture, ça veut dire agriculture permanente, mais aussi culture permanente. Ça veut dire deux choses. Donc, tout d'abord, David Holmgreen, lui, il est né en 1955, il est toujours en vie, ils sont tous les deux originaires d'Australie. Il est surtout connu parce qu'il a créé la permaculture, le livre, d'ailleurs, il a co-écrit le livre avec Bill Mollison, Permaculture One, qui est disponible en français. Et c'est un essayiste qui a fondé le premier site vitrine, on va dire, entre guillemets, de la permaculture, qui se trouve en Australie, en Tasmanie exactement. La Tasmanie étant une petite île en bas de l'Australie, face à la Nouvelle-Zélande. Il a essayé, parce qu'il a fait, il a fondé deux jardins, un chez sa mère et un avec son épouse. Celui avec son épouse, d'ailleurs, il s'appelle Meliodora. Meliodora, du nom de l'eucalyptus, qui produit un miel d'une rare pureté. Ensuite, Bill Mollison, lui, il est né en 1928 et il est malheureusement décédé, donc toute bonne chose à faire, le 24 septembre 2016, ça fait pile un an, donc hommage à Bill Mollison. Donc lui, il était d'abord biologiste, il a fait 12 ans d'études dans les biologies, dont 3 ans dans la biologie marine, avant d'arrêter tout ça et de s'orienter, donc il a un petit peu baroudé, et puis il s'est remis aux études pour apprendre la biogéographie. Alors la biogéographie, c'est l'étude des groupements humains sur la planète. Donc pourquoi les êtres se regroupent à tel endroit. Alors ça englobe beaucoup de caractéristiques écologiques, pédologiques, climatologiques, en fait, etc. Et là, il a pu rentrer à l'université de Tasmanie pour être conférencier. C'est là d'ailleurs qu'il a rencontré David Holmgreen. Et il a ouvert la section qui s'appelle Psychologie environnementale. Donc c'est aussi l'auteur de nombreux livres, dont trois écrits en français. Donc on a Introduction à la permaculture et Permaculture One and Two. Donc il en a écrit encore trois autres qui ne sont pas traduits, dont un que je n'ai pas là. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le rétroprojecteur pour voir la superbe image qui orne le Permaculture Designer's Manual. Donc c'est le manuel des concepteurs en permaculture, il est écrit en anglais. Il vaut 100 € aujourd'hui, ce livre, mais il est en anglais. Il est très très riche et c'est le support du cours de 72 heures. Donc sur la photo, je ne sais pas si je l'ai là, sur la photo de ce manuel, c'est un serpent qui entoure, qui représente en fait un visage avec deux grands yeux énormes pour bien observer, parce que c'est l'une des bases de la permaculture, c'est l'observation, qui représente le temps, alors le temps qui passe, parce que le serpent c'est aussi le temps qui passe, qui... aussi le climat, le ciel et la terre. En fait, cette image, elle est ultra complète, en fait. Et le cerveau de l'homme, là, c'est un arbre. Donc, on peut voir, on peut faire un rapprochement entre la ramification, l'architecture d'un arbre et notre ramification à nous, interne. Bon, en fait, ça a une connotation de créativité. Donc, ce livre est absolument fantastique. Cette image est absolument fantastique par rapport à la permaculture, elle est forte. Donc, pour vous donner une petite définition de la permaculture, si vous voulez, je vais vous lire un petit extrait. Permaculture, c'est un mot que nous avons forgé pour désigner un système évolutif, intégré, auto-perpétuation d'espèces végétales et animales utiles à l'homme. C'est dans son essence un écosystème agricole complet, façonné sur des exemples existants, mais plus simples. Nous avons conçu le système tel qu'il est présenté ici pour des conditions climatiques tempérées ou fraîches. Si l'on utilise d'autres espèces ou des espèces supplémentaires, il peut convenir à n'importe quel climat. Il a été conçu aussi pour s'adapter à des conditions urbaines. Donc, la définition de la permaculture, vous l'avez compris, c'est la conception consciente de systèmes autorégulés. Donc on ne va pas faire ça du jour au lendemain, mais ça prend du temps, hein. Mais il y a une philosophie derrière ça, disons que ce n'est pas qu'une agriculture, c'est beaucoup de choses la permaculture, c'est aussi l'art du non-faire, le non-travail du sol, le non-labour et une gestion holistique, c'est-à-dire qu'on va partir de l'ensemble des choses, on va pas s'attarder sur les détails, le détail ça viendra après, c'est d'abord qu'est-ce qu'on veut en général. Et cette philosophie-là, Bill Mollison a été inspiré par Masanobu Fukuoka. Alors Masanobu Fukuoka, il a écrit plusieurs livres, c'est un des rares paysans à avoir consacré 50 ans de sa vie à l'agriculture, mais aussi à dire que c'était une réalisation personnelle en fait. C'est vraiment lui qui a insufflé l'art du non-faire, l'agriculture comme le non-travail du sol, pas d'intrants chimiques, pas de pesticides, donc l'art du non-faire. Toutes les herbes mauvaises sont bonnes. Donc il faut laisser la nature agir et elle se débrouille parfaitement toute seule. Et c'est vrai que quand on va, et je vous recommande chaque semaine, ou en tout cas fréquemment, d'aller vous promener dans les forêts, l'art du non-faire, vous le trouverez là, simplement en vous promenant dans la forêt. Alors d'abord, premièrement, en contemplant, redevenir un enfant, mais aussi pour respirer l'humus. Parce qu'il est important, il est même vital pour nous de respirer l'humus. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Marc-André Sellot juste avant, mais bon. Respirer l'humus, ça vient, humus, c'est comme humain. C'est la même racine étymologique. Ça veut dire qui vient de la terre. Donc en fait, on n'est pas fait d'humus, mais on est fait des mêmes éléments qui composent l'humus. Je vous renvoie sur le tableau de Mendeleïev, mais bon, ça c'est pour les chimistes. Il est important de pouvoir contempler cette forêt qui est par excellence autorégulée. Elle s'autorégule. Donc la permaculture, elle va puiser dans cette forêt trois éthiques. Donc c'est prendre soin de la terre, premièrement, au centre. J'ai les trois éthiques. La première, prendre soin de la terre. Le symbole, c'est une croissance végétale. En fait, c'est dans la terre que la vie, toute forme de vie, prend naissance. Nous ne pourrions pas manger si la terre était... d'accord, d'ailleurs, c'est ce qui risque de nous arriver. Mais bon, on ne va pas en parler. On va rester positif. Donc, la deuxième éthique, c'est... Ici, on voit... Alors, on voit deux cœurs, mais en fait, ce sont deux hommes qui se tiennent la main et ça forme un cœur. Donc, prendre soin de l'homme, c'est la seconde éthique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment coopérer. La forme pyramidale de la hiérarchie, il faut l'oublier. Et on va fonctionner tous ensemble et se placer où est-ce qu'on se place dans la nature, avec les hommes, ensemble, pour produire équitablement. Donc ça, c'est la troisième éthique. Créer une production, parce que ben, on ne peut rien faire si on a le ventre vide. Donc créer une production pour avancer. Et c'est aussi le partage équitable. Ici, sur l'icône, c'est un gâteau. Donc la petite part, ça représente ce que je suis capable de manger. Sur un arbre, je ne vais pas manger tous les fruits. Et même si je veux transformer tous les fruits en confiture, ben, je ne vais pas pouvoir utiliser tous les fruits quand même. Donc je vais partager équitablement quand j'aurai pris suffisamment. Donc c'est un esprit de sobriété aussi. Je pourrais donner autour de moi à ceux qui m'auront aidé, par exemple. Autour de ces trois éthiques, et là on le voit bien sur cette image, donc ça c'est une image de David Green, on a des principes. Donc selon que ce soit Bill Mollison ou David Green, il y a plusieurs principes. Pour Bill Mollison, un premier principe, c'est l'emplacement relatif. L'emplacement relatif, c'est de mettre chaque élément en connexion les uns les autres en fonction des déchets qu'ils produisent et des besoins que nous avons. Et là, il aime bien faire, enfin dans le CCP en tout cas, on aborde l'analyse fonctionnelle de la poule. Parce que tout ce que produit la poule, à quoi ça peut servir dans le jardin. Un second principe, c'est chaque élément doit remplir plusieurs fonctions. Donc, un élément, par exemple, une haie, par exemple, autour d'une maison. On va pouvoir, avec cette haie, avoir une haie comestible, mais aussi, ça peut servir de haie brise-vent ou de haie ombrière. Une mare, par exemple, quand on va placer une mare à côté d'une serre, il peut y avoir plusieurs éléments, plusieurs fonctions à cette mare. Elle peut servir à réchauffer la serre en hiver, avec l'eau qui serait faite, mais aussi le soleil qui serait fait sur l'eau, pardon. Mais ça peut servir aussi à élever du poisson, à cultiver des plantes, comme par exemple les massettes qui peuvent se manger, mais d'autres aussi, même des plantes aquatiques qui se mangent. Un élément peut avoir plusieurs fonctions. De même que, nouveau principe, une fonction vitale doit être remplie par plusieurs éléments. Par exemple, un besoin d'eau, on va avoir plusieurs collecteurs placés, des cuves. Pour le chauffage, ça peut être un chauffage solaire, mais ça peut être aussi un poêle de masse. Donc on va s'assurer dans notre système qu'il y ait plusieurs éléments qui remplissent une fonction vitale. Un autre principe, c'est de prévoir l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique, je vais reprendre l'exemple de la haie. Par exemple, ma maison, elle est refroidie parce qu'elle est soumise au vent du nord, par exemple. Eh bien, j'ai placé une haie qui va couper le vent, et pourquoi pas la couper avec une éolienne en passant. C'est aussi à ce moment-là qu'on étudie dans le CCP les zones de 0 à 5. Donc, ce qui pousse et que je mange tous les jours, je vais le faire pousser au pied de ma maison. Donc ça va être dans la zone 1, et plus on s'éloigne, moins on va dans ces endroits-là, jusqu'à la zone 5. La zone 5, c'est la zone sauvage, celle où on ne va que observer la nature, avec des grands yeux, une petite loupe aussi pour vérifier comment marchent les écosystèmes et aller s'inspirer. Donc, et la zone 0-0, c'est nous, dans ce système-là. Donc, parce que nous aussi, il faut qu'on se cultive et voilà. Et qu'on fasse attention à nous. Donc, il y a une permaculture humaine aussi qui existe. Utilisation des ressources naturelles. Alors, évidemment, hein, ressources biologiques, renouvelables, est-ce que j'ai besoin de détailler ben, par exemple, on va utiliser un cheval de trait plutôt qu'un tracteur, tout simplement. Favoriser des outils manuels qui nécessitent que notre huile de coude à nous et éviter d'utiliser les ressources qui sont fossiles et qui seront bientôt inexistantes. Donc faire le plus petit effort pour le plus grand changement. Ah, ça, c'est la philosophie du fainéant. Le plus petit effort pour le plus grand changement. Alors ça veut dire qu'on va commencer petit, en fait. Et on va pas se lancer, je vais acheter 40 000 hectares. Non, voilà, on peut acheter 40 000 hectares si on veut, si on a les moyens. Pas de soucis, quoi, acheter de la terre, c'est dommage. Mais bon, Par contre, commencer petit, c'est ce qui est important et c'est ce qu'il faut retenir. C'est encore une fois ben, le recours à des outils à portée de nos mains et tout seul, on peut voir jusqu'à combien de surface on peut gérer tout seul. Donc ça, c'est très important par rapport aux efforts qu'on aura à fournir tout seul. Après, si on a un grand espace, on pourra se réunir et favoriser son prochain, on partage, et donc ça, ça peut être envisagé. Mais en ville, bien souvent, on est dans cette optique-là, hein, dans la permaculture urbaine, on est surtout basé dans nos petits jardins, sur le petit. Circulation des énergies. Donc la circulation des énergies, en permaculture, ça va être principalement le recyclage. Donc rien ne se perd, tout se transforme, grand adage. Les effets de bordure. Selon Bill Mollison, et c'est pas tout à fait faux, quand vous avez deux interfaces qui se réunissent, les deux interfaces finissent sur une bordure, donc la lisière. C'est ces effets-là qu'il va falloir reproduire au jardin, parce que ce sont deux écosystèmes qui vont être très riches. Les uns vont porter tel ou tel insecte, les autres vont porter tel ou tel eau. Et ces deux endroits-là, à la jonction commune, vont être ultra riches. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, les civilisations vivaient sur ces interfaces-là. Quand vous faites un potager, essayez de favoriser ces bordures. C'est-à-dire que plutôt que de faire un carré ou un rond, faites une fleur. Et là, vous aurez trois fois plus de myrtilles à cultiver autour. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Que si vous faites un rond, tout simplement. Donc les effets de bordure, c'est très important en permaculture. Utilisation et accélération des successions biologiques. Alors ça, c'est par exemple dans l'espace. Donc là, on a recours souvent, on entend parler en permaculture, des jardins-forêts. Donc c'est les strates, de la strate couvre-sol à la strate arborée. Donc c'est la succession écologique, hein. La strate arborée, on appelle ça le strate climax. Et la strate souterraine aussi, d'ailleurs on peut commencer par le souterrain, c'est la racine, ce sont les plantes pionnières. Donc pour accélérer cette succession écologique, dans le temps, on peut avoir recours à par exemple un paillage, du carton, et comme ça on accélère, la terre est mieux travaillée, on apporte des plantes adaptées localement, créer ainsi, on accélère la succession écologique. Donc ça peut être dans le temps et dans l'espace. Notre principe de Bill Mollison, c'est polyculture et diversité. Donc mais comme par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les effets de bordure ou de lisière, la polyculture, la biodiversité, dans un système, dans un écosystème autorégulé et naturel, il y a énormément de biodiversité. Tout a le droit de vivre, absolument tout, de la limace au puceron, à nous. Quel est le plus nuisible ? Enfin, ensuite, Bill Mollison va parler, lui, de bonnes attitudes. Par exemple, une bonne attitude, ça va être le problème et la solution. Alors, par exemple, j'ai une attaque de puceron. Ah tiens, c'est un gros problème pour moi. Mais en fait, il va falloir se poser pas mal de questions. C'est pas un problème, un puceron c'est un être vivant qui est là, qui vient. Il va falloir se demander pourquoi il est là, pourquoi il y en a tant et qu'est-ce qui va pouvoir me le réguler, par exemple. Donc c'est à nous de chercher, c'est à nous de réfléchir, à développer notre créativité pour pouvoir gérer. Donc la biodiversité, hein, je rappelle, c'est garant de la régulation de ces espèces, que ce soit des limaces ou des pucerons. Donc je vais vous citer eux parce que c'est ce dont on parle le plus, mais bon. Il y a aussi le mildiou, il y a toutes les maladies, mais chaque organisme, chaque bactérie a le droit de vie. Donc il faut se demander où est-ce qu'on se situe, par exemple pour le mildiou, l'oïdium par exemple de la courge ou de la courgette. Tiens, j'ai de l'oïdium, mais on ne va pas, comme dans certaines revues, là, le jardin, lutter contre. Mais non, on ne lutte pas contre, on vit avec la nature. Une courge ou une courgette qui attrape l'oïdium, c'est parce que simplement, il est en fin de culture. Vous verrez, vous remarquerez que l'oïdium, il ne l'a pas au printemps. Ou alors, c'est que vraiment, le temps, il n'était pas très favorable. Et à ce moment-là, ben, on y est pour rien, c'est le climat. Hein. Mais en toute logique, une culture qui a fini de produire, qui vient en fin de cycle, elle va être recyclée naturellement. Et c'est là qu'interviennent ces maladies cryptogamiques. Une autre bonne attitude, donc, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de travailler avec la nature. Donc ça, ce sont les concepts de Bill Mollison, les concepts de David Holmgreen. Donc voilà, ça c'est un dessin de David Holmgreen avec 12 principes qui tournent autour des trois éthiques. Donc il y en a la plupart que j'ai déjà abordé avec Bill Mollison. Alors aussi, c'est dommage, observer et interagir. Donc je vous disais tout à l'heure avec le serpent sur le livre qui dessinait deux gros yeux avec un arbre ici. En fait, les deux gros yeux, c'est super important. Observer et interagir. Ici, on a, vous ne voyez pas, mais l'icône, c'est un arbre. Et au milieu de l'arbre, il y a un homme, en fait. Et cet homme, il observe la nature. La beauté est dans celui qui contemple la nature. Ici, sur la photo qui est donnée par David Holmgreen, c'est un parc. C'est un parc qui a été complètement déboisé à cause du surpâturage. Et aujourd'hui, il y a une association qui l'a repris et qui laisse libre champ aux familles avec leurs enfants de venir planter des arbres et de revenir chaque année s'occuper de son petit arbre. Donc tout ça en famille. Et ça, donc, ça permet aux enfants d'observer, d'agir. On met des plantes autour de l'arbre. Donc ça, c'est super important pour créer du lien aussi avec ses propres enfants. Un second principe, c'est collecter. Alors collecter, ici on a une bouteille avec un soleil dedans. Alors tout simplement, c'est collecter l'énergie, faire de la récupération. Sur la photo, on a des maisons passives. Alors, c'est-à-dire qu'elles sont construites avec des murs en pierre, encadrés par du bois. En hiver, ça permet de capter la chaleur et de la restituer la nuit. Et dans ces coffrages en bois, il y a des ouvertures au sol pour laisser la fraîcheur passer. Donc, la fraîcheur s'infiltre, elle est réchauffée et elle va rentrer dans les maisons par le haut. Et donc en hiver, c'est un moyen de chauffage absolument magique. En été, il suffit de fermer les écouteurs et il fait frais dans la maison parce que les murs sont en pierre, protégés par du bois. Devant ces maisons, ils ont placé des gros... Alors, c'est un peu moche, mais bon, vous voyez pas la photo, c'est pas grave. Ce sont des grands collecteurs d'eau. En fait, ils sont placés en hauteur. Donc déjà pour collecter l'eau de toutes les toitures possibles, mais aussi en hauteur, c'est pour la redistribuer très loin, avec la gravité. Donc voilà, on n'a pas besoin de pompe pour irriguer le potager qui se situe au pied des cuves et au pied des maisons. Alors, le troisième principe, selon David Holmgreen, c'est créer une production. Et là, on a une icône qui est un légume racine, qui est un légume, tout simplement. Donc, tout simplement parce qu'on ne peut pas travailler le ventre vide, déjà, d'une part. Et là, sur la photo, on voit David Holmgreen avec son fils. Il est dans une forêt. Donc, c'est une forêt qui est gérée à plusieurs. Et donc l'idée, c'est de laisser les individus pousser en harmonie en supprimant certains arbres qui peuvent se gêner. Et ces arbres qui ont été supprimés, donc ils les écorcent sur place pour laisser les écorces au sol, ça fait un paillage, et ils recyclent le bois en poteaux, en piquets, qu'ils revendent ensuite pour faire vivre la communauté. Donc ça, c'est créer une production, donc c'est la première des choses, c'est un grand principe en permaculture. Un autre principe, c'est appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Et là, un icône, c'est la planète Terre. Parce que ben, voilà, la planète Terre, depuis le début de sa vie, elle a vécu plusieurs changements climatiques. Et c'est l'un des premiers individus dans l'univers à pratiquer l'autorégulation. Donc là, sur la photo... c'est le lac Titicaca. Et sur ce lac, les Indiens Ouros cultivaient des roseaux. Alors, c'était pour rendre l'eau potable. Donc, ils cultivaient ces roseaux. Et puis, ils les entassaient les uns sur les autres. Alors, ça leur servait autant à se nourrir qu'à produire du bois pour les maisons, les habitations, et qu'à se soigner. Parce que ces roseaux-là ont des propriétés médicinales. Aujourd'hui, l'eau est plus potable. Là, un des proverbes, d'ailleurs, je vous les ai pas lus depuis le début, mais l'un des proverbes, c'est « Les fautes des pères rejailliront sur les enfants jusqu'à la 7e génération ». En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, en toute conscience de choses, que ce soit bien ou mal, c'est pas aujourd'hui que ça aura une répercussion, c'est demain. Et quand demain, on sait pas. Demain, après-demain, après-après-demain. Donc il faut absolument réfléchir aujourd'hui à nos actes. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables. Bon, mais ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure par rapport à Bill Morrison et le cheval de trait, par exemple, pour remplacer le tracteur. Ici, sur la photo, on a, je ne sais plus quoi, Ramirez, excusez-moi, qui a créé Gaïa, un éco-centre en Argentine, monsieur Ramirez. Et là, sur la photo, on le voit à côté d'un four solaire. Alors bon, c'est vrai que la construction d'un four solaire, ça demande un petit peu de ressources, je vous l'avoue. Mais une fois qu'il est construit, il marche tout seul. Bon, c'est un peu long, il faut qu'il fasse soleil. Derrière lui, on voit, dans l'éco-centre de Gaïa, des maisons en architecture terre-paille, avec des toits en roseaux, palmiers, en fait c'est du matériau local. Il a ramassé la terre de chez lui pour monter des murs. Donc ça, c'est une ressource inépuisable, la terre. Donc plutôt que d'utiliser du ciment, hein, qui est énergivore en sable, orientez-vous vers les constructions, les éco-constructions. D'ailleurs, il y a un super petit coin dans le village dédié à ça. Ne pas produire de déchets. Alors ici, on a une icône idéale, qui est le ver de terre. Le ver de terre, c'est l'un des plus grands recycleurs de la planète. Donc, c'est lui qui crée l'humus à partir de la matière organique. C'est grâce à lui que les feuilles, elles disparaissent. Hein, c'est pas la peine de ramasser les feuilles des arbres. Hein. D'ailleurs, laissez-les là, les pauvres. Ils en ont besoin, c'est leur énergie. En fait, tout, rien ne se perd, comme je vous ai déjà dit, tout se transforme. Et on a une photo ici qui est une association australienne de recycleurs de vélos. Donc ils récupèrent tous les vélos qu'ils trouvent et les gens qui veulent viennent les voir pour quelques heures passées avec eux à réparer des vélos. Ils apprennent à réparer leurs vélos et puis ils se retrouvent pour faire des balades et c'est un très bel exemple de recyclage de matière et de déchets. Un septième principe, c'est partir des structures d'ensemble. Alors ici on a une icône qui est une toile d'araignée avec une araignée au centre. Il faut savoir que chaque toile d'araignée, elle est unique. Unique par rapport au lieu, unique par rapport à l'araignée. Et partir de l'ensemble, c'est super important parce que si on va tout de suite au détail, eh bien on risque de faire des erreurs. Et là, j'avais une photo à vous montrer, c'était un village marocain qu'on voit juché sur des montagnes. Et en fond, la vallée. Alors vous vous direz, mais pourquoi ils vont sur les montagnes alors que c'est ultra sec et que c'est tout verdoyant en bas de la vallée et qu'il y a plein d'arbres? En fait, tout simplement parce que si on reste là une année à observer, ces zones sont inondables. Et ils ont trouvé le moyen de capter l'eau avec cette végétation-là, mais ils ne peuvent pas y vivre parce que des fois, l'eau les inonde à plus de 3 mètres de hauteur. Donc, ils se sont réfugiés dans les montagnes juste à côté, en fond de vallée. Donc c'est pour ça que c'est important de partir de l'ensemble et de surtout bien observer longtemps, au moins un an. Le principe suivant, c'est intégrer plutôt que séparer. Alors on croit que c'est une fleur, mais en fait c'est un groupe d'hommes vus de loin. Là c'est tout plein de têtes et ils se donnent la main. Intégrer plutôt que séparer parce que la coopération, c'est vrai que seul on va vite. Mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc c'est important de coopérer ensemble. Ici, on a un atelier, un chantier participatif. Et en permaculture, on a beaucoup recours au chantier participatif parce que non seulement ça permet d'avancer plus loin, mais d'apprendre aussi ensemble et de festoyer, la convivialité est au rendez-vous la plupart du temps. Donc, plus on est nombreux, moins le travail est dur. C'est l'adage de l'icône. Le principe suivant, c'est un escargot. Donc, utiliser des solutions à petite échelle et lentement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, des systèmes ultra grands, on aura du mal à s'en occuper tout seul. Si on va lentement, si on observe dans le temps, on évitera de faire des erreurs. Un escargot, quand il ne pleut pas, il peut se réfugier dans sa petite maison, qui est très grande finalement, et attendre pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, que la pluie revienne. Le proverbe, plus on est grand et plus on tombe de haut, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc là, sur l'image, on a une aire de camping pour illustrer ce principe. C'est une aire de camping qui est perchée dans la montagne, en fait. Et il y a une végétation assez dense. Et à disposition, par terre, à droite, à gauche, on trouve des fossiles. En fait, les gens qui randonnent à cet endroit-là, qui passent par là, ils ont des ânes. Et pour nourrir les ânes, ils vont, avec la fossile, prélever petit à petit, à leur échelle, la nourriture de leurs ânes. Donc, c'est un moyen de gérer la forêt petitement, parce que ben, moi je viens et je vais prendre 15 cm carrés de la haie, et dans le temps, puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont venir et qui vont autogérer l'endroit. Le principe suivant, et là c'est un colibri, je ne sais pas si vous le voyez, qui butine une fleur. Donc les colibris ont un bec prévu pour certains genres de fleurs, c'est comme des papillons qui ont les trompes, voilà. Donc cette icône-là, c'est utiliser et valoriser la diversité. Parce que nous, tout seuls, on ne va pas pouvoir polliniser les plantes, hein, voilà. Donc même si les Chinois se sont lancés dans la grande aventure, ce n'est pas forcément la solution. Chaque espèce va être adaptée, par exemple les écureuils. En ce moment, il y a une étude d'ailleurs du Musée National d'Histoire Naturelle. Si vous avez des écureuils chez vous, allez voir sur le site écureuil MNHN. En fait, l'écureuil roux, il peut nous aider, d'ailleurs il nous aide dans nos noyers. Ils vont venir bon, nous piquer des noix, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, on partage. Mais ils sont aussi là pour soupeser les noix quand elles sont vertes et virer celles qui sont véreuses. Donc c'est quand même une grande aide précieuse, parce que nous, on fait comment pour savoir qu'elle est véreuse la noix, à part quand on va l'ouvrir. Donc c'est quand même une aide précieuse. Et il y a pas mal d'animaux comme ça. Si on arrive à les attirer chez soi en ayant une multitude de biodiversité, par exemple des noyers, eh bien ils vont pouvoir nous aider à jardiner, c'est nos auxiliaires. Ici sur la photo, ce sont des maïs qui ont été entreposés, donc c'est toujours au Pérou, et des maïs de toutes les couleurs. Et ça, c'est en fait pourquoi ? Parce que le maïs, c'est la nourriture principale au Pérou, et ce sont des variétés qui sont adaptées à toute l'année. Donc en fonction du mois de janvier, du mois de février, mars, avril, etc., jusqu'à décembre, vous aurez des cultures de maïs différentes. Et c'est aussi pour consacrer les semenciers. Parce que la semence de maïs, c'est l'une des plus difficiles à réaliser. Le principe suivant, c'est utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec Bill Mollison. Donc là, on a l'image de deux vallées qui se rencontrent sur fond de soleil levant ou couchant, avec une rivière au fond. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est valoriser les interfaces. Là, le proverbe, c'est « La bonne route n'est pas toujours la plus fréquentée. » En fait, l'image, ce sont des gens qui sont allongés par terre et qui manifestent contre une mine d'uranium. Et ils se sont entourés de craies lumineuses. Donc tout ça, c'était pour dire qu'on peut aussi être face à une interface humaine. La communication humaine, ça peut être une bonne interface. Le 12e et dernier principe, utiliser le changement et y réagir de manière créative. Donc c'est un petit peu comme la planète tout à l'heure. Et là, le changement, c'est un papillon. Le proverbe dit que la vision ne consiste pas à voir les choses comme elles sont, mais comme elles seront. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous faites un geste, un acte, qu'il soit bon ou bon, pensez à ce que ce sera demain. Et là, sur la photo, c'est un architecte en Autriche, à Vienne, qui a créé une maison. Alors, cette maison est complètement atypique. Il y a des arbres qui poussent dedans et ça sort par les fenêtres. Il y a 250 arbres et arbrisseaux. Il y a des terrasses, des cafés, des maisons, des bureaux. Et il a fait ça gratuitement, en fait. Il a légué ça à la ville parce qu'il n'avait pas envie que ce soit moche dans 15 ans. Voilà. Donc si vous voulez retrouver et approfondir tous ces principes, vous avez en téléchargement libre sur Internet ce petit livret, donc beaucoup plus riche que ce que je viens de vous raconter, enfin vous résumer en tout cas. C'est sur le site permacultureprinciples.com. Si vous voulez le nom, je vous le donnerai après. Donc ça, c'est par rapport à David Holmgreen, hein, c'est lui qui a écrit tout ça. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que la permaculture, c'est une démarche de réflexion, surtout, et d'observation, pour créer un écosystème viable, durable, pour nos enfants, pour aller vers, je ne dis pas être, mais tendre en tout cas, vers l'autosuffisance et l'autonomie énergétique et alimentaire. Et ça, on peut tous y arriver. On peut tous y arriver. La permaculture, comme je disais, c'est pas seulement l'agriculture ni une philosophie, c'est aussi une interconnexion, donc une réflexion entre tout ce qui est climat, semences, sol, eau, gestion, habitat. Donc en fait, la permaculture qui s'appuie sur ces trois éthiques qu'on vient de voir et tous les principes que je viens de vous énumérer, elle doit aider l'homme à s'acheminer vers la descente énergétique. En fait, c'est le but de la permaculture. Et pour ça, elle a créé une méthode, enfin, Bill Mollison a créé une méthodologie qui s'appelle l'obridim. Ça, c'est l'anachronisme. Obridim, ça veut dire observation, besoin, ressources, évaluation, design, implantation ou implémentation et maintenance. Et on recommence. Une fois qu'on a mis en place un truc, hop, on recommence, on regarde, on observe. Ah, tiens, là, ça marche pas bien. Là, ça marche super bien. Et on continue. On réévalue nos besoins. Bon, ben là, j'ai comblé ce besoin-là, mais j'ai encore celui-là, etc., etc. Hein? Donc, c'est très long et il ne faut pas désespérer, ça marche. Il y a des outils. Il y a des outils comme, par exemple, la carte heuristique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vous invite, surtout les enfants, étudiants, les apprentis, à vous pencher sur cette carte mentale qui permet vraiment de se situer le cheminement de la pensée. Et par exemple, c'est vrai que des fois c'est confus, on est devant un projet et on se dit, bah, tiens, il faudrait que je fasse ma maison, mais par quel chemin y prendre? Alors on va poser les éléments et grâce à cette carte mentale, on va pouvoir avancer rapidement. Donc ça, c'est un outil très très utilisé en permaculture. Et puis si vous voulez aller plus loin, il y a deux librairies à ma connaissance. Donc la librairie permaculturelle, c'est moi la main qui habite en Dordogne à l'écocentre du Périgord qui l'a fondée. Et la librairie des éditions Imagine un colibri, parce qu'on marche main dans la main avec les colibris qui sont aussi sur le stand de l'éco-village d'Alternativa. Et cette librairie, elle a été créée par Richard Wallner qui a écrit un livre sur les buts. Et qui a une ferme expérimentale en France. Voilà. Et enfin, il y a un réseau permacole, comme je disais. Alors, vous pouvez aller sur le site Brin de Paille, vous aurez tous les chantiers participatifs, et aussi sur l'Université Populaire de Permaculture, UPP, donc pour voir tous les CCP possibles en France. Donc, CCP qui dure 72 heures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci pour cette conférence, pour cette présentation quasi philosophique de la permaculture. Pour moi, j'aurais une question plus terre à terre, du coup. Quels sont les rendements de la permaculture ? Apparemment, ils seraient extraordinaires, notamment par rapport à l'agriculture traditionnelle et l'agriculture intensive, qu'elle les battrait à plate couture. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça ?
Je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a des expériences qui sont menées sur la ferme du Bekelua. C'est vrai que c'est à connotation productive un petit peu et puis économique. Bon, on n'aime pas trop ça en permaculture, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ils ont réussi, ils sont partis de rien, hein. C'était des gens qui n'étaient pas du tout dans l'agriculture, qui ont réussi sur 16 000 mètres carrés à obtenir des rendements absolument monstrueux et en travaillant à trois. Ils ont quelques woofers maintenant, et au début ils avaient créé une production en créant des stages. Mais maintenant, on sait qu'avec la permaculture, comme c'est un système autorégulé, on a beaucoup de rendement, effectivement. Je ne l'ai pas là, tiens, j'aurais pu prendre le livre de Charles-Henri Gruyer, il est bleu, ça s'appelle, enfin, je ne sais pas s'il est toujours bleu d'ailleurs, la nouvelle édition, je crois qu'ils ont changé, ça s'appelle La permaculture tout simplement, et il est excellent. Alors on dirait un pavé, mais il se lit en une semaine, vous l'avez lu, il est absolument représentatif de la production que peut donner la permaculture.
Continue, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, si c'est aussi rentable, si c'est aussi formidable, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de la déployer plus massivement, la permaculture ? Est-ce que ce sont les lobbies ? Est-ce que ce sont nos politiques ? Qu'est-ce qui empêche le développement au-delà d'un salon comme aujourd'hui, quoi ?
Alors, effectivement,
ça ne devient pas la règle, quoi.
Il y a beaucoup de pression de la part des lobbies, et on a beaucoup peur dans le réseau que les lobbies s'emparent de la permaculture, comme ils s'emparent du bio en ce moment. D'autre part, en fait, comme on le préconise en permaculture, les choses, elles se font à petite échelle, petit à petit. C'est difficile dans un monde occidental où on a été élevé dans la consommation de passer du jour au lendemain à une culture de soi. Bon, c'est plus facile, mais culture du sol. On y vient progressivement. En fait, l'idée, ce serait que chacun cultive, que tout le monde cultive la moindre parcelle que vous voyez en ville, lancez des graines, n'hésitez pas. Voilà. Après, ça se fera au fur et à mesure. Mais c'est exactement pareil que les nouvelles techniques culturales qu'emploient les maraîchers, puisque maintenant, on a recours au non-labour dans le maraîchage aussi. C'est Dominique Soltner qui l'avait bien enseigné dans ses bouquins, et il était professeur à l'école. Et en fait, les agriculteurs, ils ne se sont pas mis tous en même temps à ces techniques-là. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui sont surendettés, et donc qui sont obligés de continuer la production. Parce que quand on change comme ça de système, il faut savoir que les premières années, c'est dur. On n'obtient pas des rendements magnifiques sur un sol complètement dégradé. Mais par contre, on peut déjà commencer à agrader le sol, et après, le sol nous le rend. Donc on peut pas faire de noir à blanc. C'est, on passe par des nuances de gris, petit à petit.
Vous parliez de chacun qui doit s'y mettre, et justement, est-ce que vous avez des indications, par exemple, sur une famille, hein, se nourrir, qu'est-ce qui est préconisé ? Avec quelle superficie, grosso modo, est-ce qu'on peut nourrir une famille ? Quelle est la superficie minimum ?
Après, ça va dépendre du sol. Déjà, si on est en sol sableux, ça va être un petit peu plus long, parce qu'il va falloir amener de la matière organique sur son sol. Et si on est en sol argileux, ben on va pouvoir s'y mettre tout de suite. Bon, déjà, ça va dépendre de ça. Si on a un exemple, ça va être, comment il s'appelle, Fabrice Chollet, qui a réussi, d'ailleurs il a fait un livre, on en a beaucoup entendu parler l'année dernière, il a réussi à faire 300 kg de légumes sur 30 mètres carrés. Donc tout est possible, il suffit de mettre la main à la pâte. Oui, bien sûr. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'association des jardiniers de Tournefeuille. Eux, ils font un parcours d'initiation, d'éducation à l'environnement, mais aussi des jardinages naturels. Et nous, au sein de l'association Permasol, donc, on donne des stages. Une fois par mois, il y a un cours d'initiation, et parfois c'est accompagné d'une visite chez quelqu'un qui va nous expliquer comment il a fait. Ou alors, on fait des ateliers participatifs. On a monté déjà plusieurs buts, et des ateliers de semis, de plantation, donc d'associations. Là, bientôt, on va faire un cours sur les associations végétales. Donc, il faut effectivement se cultiver. Si on ne sait pas, il faut se cultiver. Mais la meilleure des cultures, c'est la culture pour de vrai. Il ne faut pas hésiter, même si on a un balcon, à mettre un pot sur son balcon, deux pots, trois pots, et vraiment faire ses propres expériences. C'est la meilleure façon pour apprendre. Après, un des cours les plus importants, c'est le sol. Si vous avez le temps, il y a Konrad Schreiber qui donne des cours gratuits sur internet, vous le trouverez sur YouTube. Il y a 6 ou 7 cours, bon alors c'est massif, hein, mais c'est absolument enrichissant. Et là, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses sur notre planète et sur le fonctionnement du sol et du recyclage et quelle matière je vais apporter, ben, à ce moment-là, le carbone ou l'azote. Et en plus, il est drôle. C'est quelqu'un qui est drôle. Konrad Schreiber. Ça s'écrit K-O-N-R-A-D. Et Schreiber, ben, si vous parlez allemand, ça veut dire écrire. S-C-H-R-E-I-B-E-R.
Il y a d'autres questions ?
Voilà. Bon, sachez que c'était ma première conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté sagement.
Alternatiba 2017. L'équipe d'Ondes Courtes est allée capter les conférences lors de l'édition Alternatiba 2017.